Bonjour tout le monde. Donc moi je m'appelle Shainez El Aymour. J'ai 24 ans et je vais vous expliquer un peu mon parcours aujourd'hui. On va se concentrer sur la partie athlète, mais c'est pas uniquement ce que je fais. J'ai été récemment aussi diplômée. Enfin, j'ai suivi des études et j'ai travaillé en parallèle. Donc je vais vous expliquer un peu aussi tout au fil. Du moment qu'on va passer ensemble un peu comment est-ce que j'ai réussi à concilier aussi les deux. Et voilà, moi je pratique le karaté, Kyokushinkai. Je ne sais pas si vous connaissez ou si vous avez déjà entendu parler de ça. Il y a quelques clubs sur Dreux. Moi j'appartiens au club de Nonancourt, qui est dans le 27, mais j'ai commencé à Vernouillet. Et voilà, ça va bientôt faire 20 ans que je pratique. J'ai commencé à l'âge de 7 ans. Et voilà, pour vous faire simple un peu, le karaté que je pratique, c'est pas le karaté traditionnel qu'on a l'habitude de voir aux Jeux Olympiques, par exemple. C'est un karaté de contact, c'est du full contact, c'est avec une recherche de chaos, donc c'est du vrai combat. Un peu similaire à ce qu'on peut voir, par exemple, en boxe thaïlandaise, donc c'est des entraînements très très intensifs, et avec une recherche de chaos. Mais ça n'englobe pas que le combat, on a aussi d'autres aspects, comme la technique. On a les épreuves physiques et c'est quelque chose de plus spirituel que les simples combats. Étant donné que ça reste un petit milieu, c'est-à-dire qu'on est souvent habitué à rencontrer les mêmes personnes, les mêmes combattants. Et ce qui est assez frappant, je vais juste vous donner une image, c'est que on doit entrer d'une manière sur le tatami et on doit sortir d'une manière sur le tatami. Et le combat se finit toujours par une accolade, mais une accolade très sincère. Parce qu'en fait, c'est pas une confrontation qu'on voit. C'est pas deux personnes qui s'affrontent. C'est deux personnes qui s'entraident. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je vous expliquais d'où l'importance d'être... Comment dire, de l'importance des autres dans ça. Parce qu'aujourd'hui, je me complète. Et même si c'est brutal, même si c'est un échange de coups, et c'est très fort, aujourd'hui, c'est grâce à la personne que j'ai face à moi que j'arrive à me développer. Que j'arrive à augmenter, si vous voulez, dans mes compétences d'athlète. Et donc, c'est des coups qui se donnent, mais c'est avant tout du respect, parce que ce que je traverse, moi, en termes de difficultés d'entraînement, c'est ce que mon adversaire traverse. Parce qu'en fait, on est relié à un code moral basé sur l'humilité, basé sur le respect. Et finalement, on sait tous les deux par quelles étapes on est passé pour arriver là. Et donc, c'est vraiment du respect qui vient à la conclusion de ça, en fait. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand j'en parle, ça peut paraître impressionnant quand on évoque le chaos, mais c'est tout sauf de la violence. C'est de l'échange et du partage. Et c'est assez particulier parce que ça développe en nous aussi le fait de... C'est bizarre ce que je vais vous le dire, mais je vais vous le dire de manière très frontale. Mais on aime bien recevoir des coups parce que ça nous stimule, ça nous met dans un état de transe où on va chercher très 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 profond dans notre être. Et c'est là qu'on arrive à développer quelque chose de fort. Voilà ce que je fais et je suis contente aujourd'hui de pouvoir partager mon expérience avec vous. Et ne vous limitez pas dans les questions que vous avez envie de me poser. En tout cas, je tâcherai d'y répondre.
À quel âge avez-vous commencé le karaté et depuis quand ? Êtes-vous sportif de haut niveau ?
Alors, comme je vous le disais, j'ai commencé le karaté à l'âge de 7 ans. J'ai commencé par la danse classique, j'en ai fait pendant un an et demi. Et j'ai dû arrêter assez brutalement. Et je suis restée peut-être pendant 6 mois sans activité. Et ensuite, j'avais très peu confiance en moi et j'avais pour habitude de me faire un peu embêter à l'école. Et c'est mon papa qui a décidé de me mettre dans le karaté. Et à partir du moment où j'ai commencé, j'ai jamais quitté le karaté. Et depuis quand je suis athlète de haut niveau, je dirais que depuis l'âge de 12 ans. J'ai commencé mes premiers tournois internationaux à l'âge de 12 ans, où j'ai dû aller combattre par exemple au Japon, me rendre dans différents pays en Europe. J'ai commencé du coup à l'âge de 12 ans.
En combien de temps êtes-vous arrivé à ce stade ?
Je pourrais pas vous dire en combien de temps. Ça s'est fait en fait tout au long de ma carrière. Chaque année... Je progressais et chaque année, j'atteignais un niveau qui était un peu plus important. Ça allait toujours, en fait, comme une forme de progression. Ça ne s'est pas fait à un moment bien précis. Je suis encore en train d'évoluer.
Est-ce que votre famille était d'accord avec votre choix de carrière sportive et vous a encouragé ?
Alors oui, C'est une question intéressante parce que pour le coup, si je suis à ce niveau aujourd'hui, c'est entièrement grâce à ma famille. Pour vous dire, depuis que j'ai 7 ans, mon papa il me suit dans tous mes entraînements, toutes mes compétitions. Et ma famille intervient énormément parce que, étant donné que ce n'est pas quelque chose de très professionnel, il a fallu que je crée toute mon équipe, à commencer par ma maman qui s'occupait plus de la partie soins, toute la partie régime alimentaire. Et mon papa qui était plus dédié à la partie préparation physique. Et bien sûr, ma petite sœur, que vous devez connaître d'ailleurs, qui est Inès, qui travaille ici, qui m'accompagne tous les jours.
Qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir professionnel dans le karaté?
Ça, c'est plus un conditionnement, en fait. Moi, je me perçois comme professionnel, mais je ne suis absolument pas rémunérée pour ça. C'est pour ça que j'ai dû faire des études, c'est pour ça que je dois travailler aujourd'hui pour continuer de vivre. Mais je dirais plus que c'est une passion. Aujourd'hui, je ne vis pas de ça. Je ne suis pas payée pour les combats que je fais. Je ne suis même pas accompagnée, je n'ai pas de sponsor. Je suis complètement autonome sur ce plan-là. J'ai toujours eu envie, parce que forcément, je m'identifie à d'autres athlètes, des femmes très inspirantes dans d'autres sports. Je prends par exemple Serena Williams, qui est vraiment une figure très, très importante dans le sport aujourd'hui. Des femmes, mais j'ai jamais réussi à devenir professionnelle parce que malheureusement aujourd'hui le karaté il est pas assez développé en France pour avoir ce statut professionnel. J'ai fait des demandes, j'ai refait des demandes encore très récemment qui m'ont été refusées malgré mon palmarès, malgré mon implication et je dirais que là c'est plus une question d'ordre politique, mais je peux pas intervenir. Donc j'ai préféré laisser ça de côté et aujourd'hui j'accepte le fait que je ne serai jamais professionnelle.
Quel est le quotidien d'un sportif de haut niveau tel que vous?
Je vais vous faire une journée type. Jusqu'au lycée, en fait, j'étais à Dreux. Et ensuite, j'ai commencé mes études supérieures à Paris. Et j'ai commencé par l'alternance, juste après le bac. Donc, je me levais le matin à 4h30 pour m'entraîner avant de partir à l'école. J'allais à l'école sur Paris, je rentrais le soir, je m'entraînais, et ainsi de suite. Et ça a été ça pendant 5 ans. Jusqu'à temps que je sois diplômée et que mes études s'arrêtent finalement. Et aujourd'hui, je m'entraîne deux fois par jour, donc une fois le matin, parfois le midi, et une fois le soir. J'ai une à deux journées de temps de récupération et je travaille. Tout le reste du temps, je travaille. Voilà.
Quels sont les avantages et les inconvénients du métier de sportif de haut niveau?
Je vais commencer par les avantages. C'est très intéressant parce que c'est un sport de niche, c'est-à-dire un sport qui est très peu connu et qui, du coup, nous donne la chance de beaucoup voyager. Donc ça, je dirais que c'est l'avantage premier, en tout cas que moi, j'y trouve. On rencontre des gens du monde entier, des gens du pays de l'Est. On s'accroche finalement à... Étant donné qu'on partage tous la même passion, on se comprend et on franchit toutes les barrières de langage, toutes les barrières aussi culturelles, parce qu'il y a beaucoup de différences entre comment moi, athlète française, je pratique le karaté Kyokushinkai, et comment, par exemple, une athlète russe va le pratiquer. Et c'est très intéressant d'avoir cet aspect culturel et de pouvoir être très connecté de personnes qui nous ressemblent et à la fois sont complètement différentes de nous. Et ça, je dirais que c'est l'un des avantages premiers que moi, je trouve à ça. Et au niveau des inconvénients, comme j'ai pu vous dire juste avant, c'est tous ces problèmes de logistique, parce qu'on doit se débrouiller seul, on doit être autonome. Et c'est aussi quelque chose qui engage une souffrance, une douleur physique, parce que quand on s'entraîne physiquement, c'est très fatigant. Et psychologiquement aussi, c'est très très dur de devoir tout concilier, de devoir répondre à plein de choses, de devoir être performante dans le sport tout en étant performante dans le travail, en essayant de donner aussi de sa personne au quotidien avec la famille, et en essayant de garder aussi un minimum de vie sociale. Et je dirais que ça, c'est l'inconvénient premier, parce qu'on n'est pas toujours face à des personnes qui comprennent ce dévouement. Et voilà, je dirais que c'est un peu les inconvénients aussi, le fait d'être très peu compris finalement.
Que préférez-vous le plus et le moins dans votre métier de sportive?
Ce que je préfère le plus, je pense que c'est, comme ce que je vous disais juste avant, c'est le fait de voyager, d'être connecté à plein de personnes. Et c'est surtout cette attache avec le Japon, qui pour moi est très importante. J'ai eu la chance de faire mon premier voyage au Japon en 2009, quand je devais avoir 11 ans, 12 ans. Et c'est une attache qui est forte. Étant donné que tous les cours sont très imprégnés par la culture japonaise, les termes sont en japonais, on a beaucoup d'appellations, tout est en japonais, donc on reste toujours connecté à ça. Et ça, je dirais que c'est quelque chose qui me rend assez heureuse de pouvoir faire ça. Et pour ce qui est des choses que j'aime le moins, je dirais que c'est plus au niveau de l'accompagnement. Au niveau de l'accompagnement, des problématiques logistiques, le fait de toujours devoir se battre plus que les autres, finalement, en tant qu'athlète. De devoir réfléchir à plein de choses qui ne sont pas normales. Parce que si on compare, par exemple, à un tennisman ou à un footballeur, ou ne serait-ce qu'un boxeur professionnel, on ne doit pas penser à toutes ces questions de comment est-ce que je vais faire pour acheter mes équipements, comment est-ce que je vais faire pour trouver des soins, comment est-ce que je vais faire pour essayer de cadrer ma diète. Et ça c'est quelque chose qui pèse, surtout d'un aspect financier aussi, ça nous pèse, on a du mal à se concentrer uniquement sur la performance. Et c'est vrai que depuis que je suis petite, moi je rêve d'être cette athlète qui est prise en charge, qui n'a pas besoin de travailler à côté et qui a juste besoin d'exprimer son art. Voilà.
Est-ce qu'une femme doit travailler plus qu'un homme pour réussir ?
Oui, je pense. En tout cas, de mon expérience, j'ai dû travailler plus que certains hommes. Pour vous placer un peu le contexte, moi je suis aujourd'hui la seule combattante de mon club et l'une des seules combattantes à représenter la France à l'international. Et donc je m'entraîne qu'avec des garçons. J'ai eu la chance aussi d'être entourée de garçons très bienveillants, qui ont toujours fait en sorte de m'élever. Bien sûr, au long de ma carrière, j'ai rencontré des garçons qui avaient beaucoup d'ego et qui refusaient le fait que je puisse performer et pas eux. Qui refusaient aussi le fait que mon coach pouvait concentrer son énergie sur moi et pas eux. Parce que tout simplement, ils ne présentaient pas les performances à côté et que moi, je les présentais. Et quand il est question d'entraînement, il n'y a pas de différence. Ce que les garçons font, c'est ce que je fais aussi. Et c'est comme ça qu'au fil des années, j'ai gagné leur respect. Et même si ce n'est pas quelque chose de normal, malheureusement, c'est une réalité. Et aujourd'hui, je ne peux pas vous dire le contraire. Je ne peux pas vous dire, parce que moi, j'ai eu la chance d'être entourée d'hommes et de garçons bienveillants, ce n'est pas une généralité, ce n'est pas une réalité. Et j'ai dû travailler très dur. Et ça a été mon travail, mais ça a été aussi le travail de ma famille et mon père, notamment, qui m'a beaucoup accompagnée et qui a fait en sorte de me créer un cocon. C'était en fait mon... Il m'a beaucoup protégée parce que j'ai parfois subi des attaques directes de certains hommes qui ne comprenaient pas pourquoi j'étais mise sur un piédestal, par exemple, dans mon club. Et que si on voyait d'un point de vue effectif qu'il y avait plus de garçons et que j'étais la seule fille, pourquoi est-ce que l'énergie devait être concentrée sur moi ? Pourquoi est-ce que ça devait toujours être moi qui avais accès aux compétitions les plus intéressantes et les plus gratifiantes ? Mais parce que tout simplement, je fournissais le travail en face. Et c'est vrai que mon coach a jamais fait de différence. Il se basait uniquement sur la performance. Je performe, je mérite. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup servi, en tout cas.
Est-ce qu'il est plus difficile de réussir dans ce domaine quand on est une femme ?
Il est plus difficile de réussir quand on est une femme. Je vais vous donner des exemples. Il y a déjà, en 2015, je participais du coup au championnat du monde à Tokyo. Les femmes combattaient, la compétition en fait était sur plusieurs jours. Donc on avait l'événement principal, on va dire, qui était le samedi. On a aussi les enfants et on avait aussi les femmes. Et plutôt que de mettre les femmes, l'élite, le pôle élite des femmes, le même jour que les hommes, c'était toujours la même journée que les enfants. C'est-à-dire qu'on mettait un peu de côté. Plus les années passent et plus les femmes se sont affirmées dans leur style. Parce qu'il ne faut pas oublier, sur ce type d'échéance, ce que les gens recherchent, c'est le divertissement. Et étant donné qu'ils ne voyaient pas trop de divertissement en la manière dont les femmes combattaient, on les mettait un peu le même jour que les enfants. Et ça s'est démocratisé au fil des années. Maintenant, on a notre place avec les hommes. On nous reconnaît, on nous valorise aussi. Mais il y a encore des écarts qui sont très importants. Je vous prends un exemple qui est tout simple. Quand on a la remise des trophées, par exemple, les trophées des hommes font à peu près ma taille, c'est-à-dire 1m60. Et nous, on a des trophées de cette taille-là, qui ne correspondent même pas à la troisième place de ceux des hommes. Et ça, c'est quelque chose qui m'embête, qui me dérange. Je travaille en fait de manière à ce qu'on puisse avoir le même traitement de faveur finalement qu'eux, parce qu'il n'y a rien qui vient justifier ça en fait. Pourquoi est-ce que les hommes doivent avoir un trophée qui fait le triple de notre taille quand nous, on doit avoir un trophée qui est plus petit? C'est insignifiant parce que ça reste du plastique. Quand on gagne un tournoi, je pourrais vous parler plus en détail de ce qu'on... plus sur l'aspect athlète, mais c'est tellement éphémère une victoire. C'est tellement éphémère qu'on en oublie vite les trophées, on en oublie vite toute l'euphorie qui se passe autour. Mais ça reste un symbole qui est fort et qui représente aujourd'hui pour moi une lutte très importante.
Avez-vous déjà été la cible ou témoin de propos sexistes ?
Oui. Beaucoup plus dans le milieu professionnel que dans le milieu sportif. Après, je sais que certains athlètes n'en pensent pas moins. Encore une fois, il est toujours question de faire ses preuves. Et ce qui est intéressant, c'est que nous, on est dans l'adversité. On a des moyens de prouver les choses. Par le combat, par exemple. Quand on doit se confronter l'un à l'autre, dans le respect de l'art, bien sûr. Je ne parle pas de bagarre, je ne parle pas de confrontation, mais c'est vrai que moi, j'ai déjà été face à des personnes qui tenaient des propos sexistes ou autres, à mon égard ou à l'égard d'autres femmes, par exemple de mon club, qui viennent juste pratiquer, qui ne sont pas dans la compétition. Et pour moi, c'est important de faire en sorte que la justice règne et de leur montrer que je suis à même de pouvoir le régler, tout simplement.
Combien avez-vous remporté le prix dans votre carrière ?
Je ne pourrais pas vous donner un chiffre bien précis parce que j'ai commencé très petite, mais aujourd'hui, j'ai la chance, et à l'aide de ma famille, à l'aide de mon équipe, d'avoir accédé à des tournois très importants. Donc j'ai gagné 5-6 fois le championnat d'Europe. J'ai aussi remporté une dizaine de fois le championnat de France. Et je suis 3e mondiale aujourd'hui. Et la chose dont je suis fière, je dirais que c'est je suis la première athlète de ma discipline à être montée sur le podium mondial. C'est-à-dire que avant, il y en avait très peu de femmes qui accédaient à ce niveau-là. Et ça, pour le coup, c'est vraiment une progression et une avancée que je suis fière de dire. Plus que de donner un chiffre, c'est quelque chose que je suis fière aujourd'hui de dire qu'avant, que le niveau finalement a augmenté au fil des années. Voilà.
Est-ce que vos origines ont été un frein ou une force pour votre carrière de sportive ?
Une force. Vraiment une force. Et je suis d'ailleurs... triste de ne pas pouvoir porter les trois couleurs qui me font. Et même si je sais que ce n'est pas possible, j'ai décidé récemment d'ailleurs que lors de mes prochains tournois, j'allais beaucoup plus valoriser ça. Parce que, bien évidemment, je suis très reconnaissante envers tout ce que la France m'offre aujourd'hui. Je suis très fière de porter le drapeau tricolore quand il s'agit de combattre à l'étranger. Mais il ne faut pas oublier l'identité. Et l'identité, c'est quelque chose de très important. Je dirais même que c'est la chose la plus importante pour moi aujourd'hui. C'est ce qui me procure la force, c'est ce qui me donne ma détermination et c'est ce qui fait ma personnalité quand je dois combattre. Je m'imprègne d'absolument tout. Mon enfance, ma pseudo-adolescence, parce que je n'en ai pas vraiment eu. Mais c'est très important aujourd'hui. Je revendique mes origines, moi, avec fierté. Et j'espère qu'un jour, peut-être dans un futur proche, je pourrai me réorienter et combattre pour d'autres nations. Mais c'est très, très, très important, les origines. Ça me suit, en fait. C'est, comme je vous dis, ça fait part de mon identité. Et c'est comme ça qu'on arrive à se différencier. C'est comme ça qu'on arrive à tenir bon, finalement. Et c'est quelque chose qu'on ne doit jamais oublier. Juste pour faire un parallèle à ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est une toute petite discipline qui nous connecte à plein de monde. À des gens du monde entier. Et aujourd'hui, moi, quand je me présente, j'ai besoin de présenter aussi mes origines. Et c'est assez marrant parce que des fois, je vais sur des tournois, je porte l'équipe de France, il y a des personnes qui viennent me voir et qui me disent « Mais toi, t'es pas française. » Ouais. Ça m'est déjà arrivé. Et qui creusent un peu, essayent de comprendre d'où viennent mes origines. Et moi, je suis toujours très fière d'en parler. Je dirais que c'est une force, oui. Du coup, je suis de nationalité... je suis franco-marocaine et je suis tunisienne aussi. Ma mère est tunisienne, mon père est marocain. Voilà.
Est-ce que le karaté est votre métier ou vous avez un autre métier ?
Alors non, c'est pas mon métier. Et aujourd'hui, je dirais que je suis assistante de direction. Je travaille avec mon mécène. Donc, je ne sais pas si vous savez ce que c'est un mécène. Non? Je dirais que pour faire simple, un mécène, c'est la personne qui me permet un confort de vie en tant qu'athlète et qui me sponsorise, pour faire simple. Donc, qui m'organise mes soins, qui contribue financièrement à mes déplacements sportifs. Et aujourd'hui, on a décidé de faire un échange parce que c'est quelqu'un qui suit mon parcours depuis que je suis petite et qui a aujourd'hui la possibilité de me prendre en charge. Et en échange de ça, je travaille pour lui. Mais ce n'est pas mon métier à terme. C'est quelque chose de très provisoire parce que j'ai des objectifs sportifs. Et une fois que j'aurai atteint ces objectifs sportifs, alors j'en aurai fini avec ce métier. Mais ce n'est pas mon métier aujourd'hui définitif.
Avez-vous le même salaire que vos confrères masculins qui exercent le même métier ?
Alors, comme je vous disais, il n'y a pas de salaire à proprement dit. On fait ça de manière bénévole, hein, pour faire simple. Enfin, c'est pas vraiment de manière bénévole, mais on gagne pas d'argent. Mais par contre, il y a des différences au niveau des bourses qui sont attribuées à certains athlètes, à certains gagnants. Donc les garçons ont souvent des bourses qui sont plus importantes que celles des femmes.
Avez-vous déjà pensé à faire un autre sport que le karaté ?
Oui. J'ai déjà pensé à faire un autre sport. Mais c'est très difficile parce que c'est ancré en moi, ça coule dans mes veines. Je ne peux pas me diriger vers autre chose. Par contre, il y a d'autres sports qui m'intéressent. Et de manière générale, j'aime bien faire du tennis, j'aime bien courir, j'aime bien faire plein de choses. J'aime bien jouer au foot, j'aime bien jouer au basket, j'aime tout. Mais le karaté, c'est le karaté.
Est-ce que le karaté, c'est technique ou c'est de la force ?
Karaté, c'est 80% de technique. 20% du reste.
Est-ce que grâce au karaté, vous avez réussi à vous défendre dans la rue ?
J'ai jamais eu de problème d'agression ou autre, mais en tout cas, je peux vous dire que moi, je suis confiante. De manière générale, je n'ai pas de problème.
Est-ce que vous pensez vous installer au Japon ?
Oui. Oui, c'est mon objectif. Pas à terme, mais en tout cas, partir pour quelques temps, là, dans la continuité de mes compétitions. Je pense partir plusieurs mois, dans très peu de temps, pour m'entraîner.
Quel est votre film ou série préférée par rapport au karaté ?
Je dirais Fighter in the Wind. Fighter in the Wind, c'est un film qui a été créé et qui reprend l'histoire du fondateur de mon karaté, le karaté Kyokushinkai. Et c'est un film qui est très prenant, parce qu'il reprend un peu l'histoire de la guerre qu'il y a eu entre la Corée et le Japon. Donc on a vraiment une approche très historique, mais qui reprend aussi des trucs très, très, très précis de la vie du fondateur. Et c'est très important. On le voit s'entraîner dans la montagne, dans des conditions très difficiles. Ça, c'est un des films qui m'a marqué. Et aussi, un film qui est assez emblématique pour moi, c'est Million Dollar Baby. Ça, c'est un film qui m'a beaucoup marqué quand j'étais plus jeune. Voilà. Après, il y a plein d'autres films, mais qui ne sont pas en lien avec le karaté, mais qui m'inspirent aussi.
Avez-vous une devise personnelle ?
La connaissance expérimentale est la seule arme valable. Je pense que c'est la devise qui me parle le plus, qui me représente le plus et que je me répète de manière quotidienne. Je vous l'explique. L'apprentissage, pour moi, c'est quelque chose de très important. Aujourd'hui, je suis athlète, mais je ne me considère pas comme athlète parce que j'aime pas qu'on puisse... Pour moi, c'est une restriction que de se dire je suis athlète ou je suis assistante de direction ou je suis étudiante. Aujourd'hui, c'est important pour moi d'être plein de choses. Et ça passe par l'apprentissage, ça passe par la connaissance. Lorsqu'on apprend des choses, comme les choses qu'on apprend à l'école, par exemple, des fois, on a du mal à les comprendre, parce que c'est trop théorique. Et je pense que apprendre quelque chose par cœur n'a pas la même valeur que de l'apprendre quand on l'expérimente, c'est-à-dire quand on fait soit les erreurs ou autre chose, mais quand on est dans l'expérience, c'est-à-dire quand on transpire pour ça. Je ne sais pas si vous me comprenez. Et je pense qu'aujourd'hui, quelqu'un qui sait, ce n'est pas quelqu'un qui a appris le plus. C'est quelqu'un qui a expérimenté le plus. Je ne sais pas si vous comprenez où je veux en venir. Et c'est pour ça que je pense que dans ce monde, dans cette vie, il est important de démultiplier les expériences, d'en faire le plus possible, quitte à se tromper, quitte à faire des choses qui ne nous correspondent pas. Mais c'est la seule manière de comprendre réellement pourquoi on existe, et c'est surtout ce qui va nous indiquer vers où on veut aller. Et aujourd'hui, c'est la devise qui est la plus importante pour moi.
Quelles sont les causes et valeurs qui vous semblent importantes? Pourquoi?
Les valeurs, l'humilité déjà, c'est quelque chose de très important. L'humilité, c'est un rappel à l'ordre, c'est ne pas oublier d'où on vient, d'où on est parti. Le respect des autres, la tolérance, c'est des valeurs, je dirais, un peu bateau, qu'on a l'habitude d'entendre, mais qui aujourd'hui sont très importantes pour moi. Et c'est vraiment important de se poser les bonnes questions et de les comprendre. Pour ce qui est des causes, bien évidemment, la cause féministe, parce que c'est quelque chose de très, très, très important. On a tous une maman, on a tous une grand-mère, on a tous une tante. Et il faut comprendre qu'être féministe, pour moi, ma traduction d'être féministe, c'est aimer les femmes. Aimer les femmes, c'est-à-dire aimer ce qu'elles représentent, aimer et respecter ce qu'elles sont, aimer leur histoire. Et c'est très important de comprendre tout ça d'un point de vue historique. Être féministe, c'est pas que revendiquer, aller manifester et être en colère. Être féministe, c'est avant tout quelque chose de poétique. C'est le respect des femmes qui nous entourent et comprendre aussi, parce que c'est pas facile d'être une femme aujourd'hui. C'est pas facile si on englobe la totalité dans la société, dans son intimité, et c'est très important de se sensibiliser à ces choses-là. Parce que quand on comprend le quotidien d'une femme, déjà on comprend le monde dans lequel on vit. Et on peut prendre par exemple, d'un point de vue, si on prend l'économie par exemple, et qu'on s'intéresse à la condition de certains pays, on s'aperçoit que les pays dans lesquels les conditions des femmes sont très développées, d'un point de vue social, d'un point de vue de droit, sont les pays les plus avancés, les pays les plus libres. Et intéressez-vous, par exemple, je vous donne des petites informations, si vous avez envie, si ça vous intéresse d'aller creuser, intéressez-vous, par exemple, à comment est constitué un peu le système en Nouvelle-Zélande, et vous allez vous apercevoir de plein de choses. Voilà, je dirais que c'est une cause, je vous parle d'une cause aujourd'hui, mais c'est une cause qui est très importante pour moi.
Quel conseil donneriez-vous aux jeunes pour leur avenir?
Dans la continuité de ma devise personnelle, déjà, première chose, la quête de l'identité, c'est très important. C'est très important que vous ayez un ancrage. C'est très important de savoir ce que vous représentez, de savoir d'où vous venez. C'est très important de connaître vos forces et c'est très important d'identifier vos faiblesses. Et ça, c'est un travail du quotidien. Et la chose, vraiment le conseil pour votre avenir, il faut que vous soyez des éponges. Il faut que vous soyez toujours dans la quête d'apprendre de nouvelles choses, la curiosité. Il faut nourrir ça, la curiosité. Et ne se fermer aucune porte. Vous avez envie d'essayer quelque chose, même si c'est contraire à ce que votre famille vous dit, même si c'est contraire à ce que vos amis pensent de vous, essayez-le. Allez chercher, creusez. Je pense que c'est vraiment la chose la plus importante à faire pour atteindre vos objectifs. Et ne pas se fixer de limites, aucune limite, ça c'est le plus important. Il y a quelque chose que vous aimez, même qui vous semble contraire à ce que vous êtes d'aspect, mais au fond de vous, dans votre âme, vous le ressentez, il faut que vous l'exprimiez, c'est très important. Et communiquer, c'est vraiment les conseils que je peux vous donner. De trouver des personnes qui sont à même de pouvoir vous écouter aussi. D'écouter les autres, c'est très important. Il faut vraiment comprendre qu'on n'est rien sans les autres. Comme je vous expliquais tout à l'heure, moi je ne serais jamais arrivé à ce niveau de karaté avec toute la force et avec tous les entraînements possibles si je n'avais pas reçu cet encadrement familial, social, des amis qui vous font confiance. C'est très important d'être présent pour les autres, c'est très important d'écouter les autres parce qu'on ne devient rien sans les autres. Ça c'est très 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 important. Si vous êtes dans une démarche égoïste où vous dites de toute façon on m'a jamais donné la chance, de toute façon, je me suis fait seule, parce que c'est souvent ce qu'on entend de la part de certains jeunes qui ont subi des choses, ça arrive. Vous allez faire des erreurs, mais c'est important de faire ces erreurs-là, parce que moi, je peux vous les expliquer aujourd'hui. Ça rejoint la devise que je vous disais tout à l'heure. Moi, je peux vous expliquer des choses. Aujourd'hui, ça ne va pas vous parler. Il faut que vous fassiez l'expérience. Il faut que vous fassiez les erreurs pour comprendre et arriver un jour, peut-être, à cette conclusion-là. Merci beaucoup. D'accord.